De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Le cœur des océans, Goa, la Corée du Sud, voilà les horizons cinématographiques qu'on vous propose avec un blind test sur les super-héros en guise d'amusement. C'est Cinérama qui débute, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, vous avez préparé quelque chose, évidemment, et c'est quoi?
Eh bien, moi j'ai vu donc le dernier film d'Hong Sang-soo, Grâce, et puis je vous parlerai d'un documentaire, Exil, de Ricky Pan.
Deuxième volet avec ce Ricky
Deuxième
Pan.
Volet, voilà.
Et moi, toi, eh bien, je vais vous emmener à Goa, puisque je vais vous parler du dernier film de Mia Hansen-Love, Maya, avec Roman Kolinka.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai de Aquaman, ça c'est le film de super-héros très attendu par DC Comics, voilà, et puis ce sera l'occasion de jouer un blind test spécial super-héros, et ben, vous verrez, ce sera le petit côté jeu de cette émission qui débute maintenant, direction Corée du Sud, avec Hong Sang-soo, un habitué de Cinérama.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinérama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
Oui, un habitué grâce à moi, je pense.
Oui.
Hein, parce que
oui.
Sinon, Alors, troisième film en plus cette année, donc Sang-soo à sortir, hein, donc après Seul sur la plage, La nuit et La caméra de Claire. Grâce s'adresse alors avant tout aux initiés, ou du moins aux amateurs inconditionnels du romère coréen. Alors, je vois des sourires là, en fait, déjà. Il s'agit sans doute du film le plus aride et expérimental de son auteur, celui qui ne cherche plus à raconter une histoire, réduisant la dramaturgie à une peau de chagrin pour aller à l'essentiel. Eh bien, toucher au cœur, faire surgir des émotions, des tours d'un plan sur un regard, d'une phrase prononcée, d'un geste esquivé. Hong Sang-soo observe les petits riens avec une grande tendresse et une attention méticuleuse. Alors, malgré l'absence d'une ligne narrative forte, le film n'a rien d'un pensum abstrait. Il raconte même des choses essentielles à travers un dispositif conceptuel, mais simple. C'est la rencontre d'individus dans un café. Cet environnement propice à la relation alors devient un formidable terrain de jeu émotionnel où les personnages vont se livrer par bribes, essayant alors de combler leur solitude respective. Des jeunes gens évoquent la mort d'un proche, avec le sentiment de culpabilité inhérent à ce genre de situation lorsqu'il s'agit notamment d'un suicide. Des gens plus mûrs se livrent à des réflexions sur l'art, la création. Un groupe se retrouve aussi et continue tout en buvant du soju à parler d'amour, du temps qui passe. Avec comme seul fil conducteur une jeune femme, Areum, incarnée par la toujours sublime Kim Min-hee, qui est d'ailleurs plus avec Hong Sang-soo. Hein,
Tu as aussi les potins mais
je connais même
de
les potins
la vie du réalisateur.
Et oui, et oui. Donc il ne tournera plus avec elle dans les prochains films. Donc voilà, Areum, elle observe donc ce petit monde tout en écrivant. Elle semble retranscrire leurs pensées comme connectées par leur état d'âme. Alors la musique, hein, je dois le signaler, est très importante dans le film, ce qui est très rare chez un Hong Sang-soo, c'est-à-dire que pendant les 1h06, elle est en fond sonore. Alors on entend tour à tour Wagner, Offenbach et Schubert, entre autres. Hein. Je crois qu'il y a même d'autres musiciens classiques. C'est assez curieux d'ailleurs. Alors si l'on accepte sa démarche hein, sans compromis, son esthétique blafarde baignant dans un noir et blanc, alors moins séduisant que dans Le jour d'après, le film de Hong Sang-soo devient passionnant, se transforme en un pur laboratoire expérimental sur le processus d'écriture. Alors Grâce cherche l'indicible, essaie de faire passer à l'image certaines émotions contenues. Alors rien n'est étalé à l'écran, hein, comme dans les grands romans, il faut lire entre les lignes, ne pas se laisser griser par les apparences. Cette petite musique de chambre, à la fois romantique et austère, filmée dans un lieu clos avec un décor minimal, dépasse l'objet théorique réservé aux purs amateurs du coréen grâce à la beauté d'une mise en scène subtile de celle qui n'affiche pas sa virtuosité. Alors Hong Sang-soo dirige aussi à merveille hein, ses comédiens, hein, comme d'habitude, hein, notamment lors de plans séquences qui sont toujours réglés au millimètre en termes d'écriture. Le temps est suspendu pendant 1h06, pas plus, hein, des individus se posent, réfléchissent, se désirent et se réinventent ensemble. Alors pour finir, hein, cette phrase du cinéaste, hein, lors de la conférence de presse à Berlin, où le film fut sélectionné, hein, il n'a rien eu, hein, comme d'habitude, hein, il repart souvent bredouille, mais qui résume quand même l'importance d'un tel film et de la vision de cinéma de Hong Sang-soo. Il disait donc « On traverse la vie si vite, hein, on doit toujours se dépêcher, alors nous n'avons pas le temps de faire attention à ce cadre mental qui en fait contrôle notre comportement, qui colore nos désirs. Nous avons besoin de temps pour faire attention. Alors, et grâce, d'ailleurs c'est le cas de le dire, au cinéma profond et humaniste de Hong Sang-soo, on a ce temps précieux de penser à toutes ces choses intimes qui parcourent notre existence. C'est beau, non ?
Et sinon, grâce, ça se traduit...
Alors pourquoi grâce ? Donc c'est herbe. On va dire qu'on cherche un peu pendant tout le film pourquoi le film s'appelle comme ça. Et puis, lors de l'épilogue que je ne vais pas dévoiler, qui est plein d'espoir, hein, après quand même un film assez sombre, assez mélancolique, et le titre éclaire quand même nos lanternes. Bon. Mais il faut attendre quasiment le dernier plan.
S'il y a beaucoup de musique, c'est parce que aussi ça se passe peut-être dans un bar. Elle est diégétique, la musique à l'intérieur
de la fiction.
Je pense
que c'est pour ça, parce que c'est quand même très curieux de la part d'Hong Sang-soo qui met des bribes de musique comme ça dans ses autres films. Et là, elle est omniprésente.
Parce qu'on aurait été dans un PMU, on aurait entendu la télé.
Surtout à des moments, alors que tant que c'est Schubert, on se dit que ça va bien avec Hong Sang-soo. Mais parfois, Offenbach, ça fait bizarre en fait. Et surtout qu'il utilise la musique selon les gens qui sont là. C'est-à-dire, à chaque fois, un couple est associé à une musique. Un autre groupe va être associé à une autre musique.
Elle n'est peut-être pas diffusée alors par le bar. Mais bon, peu importe. Voilà, c'était donc eh bien, le dernier Hong Sang-soo, le troisième de l'année.
Demain en janvier.
Il était temps.
À sortir sur les écrans. On passe maintenant à l'interview de Roman Kolinka. C'est le fils de la comédienne Marie Trintignant et du batteur du groupe Téléphone Richard Kolinka. Il joue un ex-reporter de guerre qui réapprend à vivre et à aimer sur l'île de Goa.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Oui, on parle donc de Maya. 2012, Gabriel, qui est reporter de guerre, revient en France après avoir été otage en Syrie. Déboussolé par sa détention, il décide de partir en Inde, où vit sa mère, avec qui il ne semble plus avoir de lien. Une fois arrivé à Goa, il retrouve son parrain indien, qui est gérant d'un hôtel et rencontre aussi sa fille, Maya. Commence alors, pour Gabriel, une lente reconstruction dont Maya sera l'investigatrice. Alors c'est une troisième collaboration entre la réalisatrice Mia Hansen-Love et le comédien Roman Kolinka, jusque-là assez discret hein, dans le paysage du cinéma français, et à qui elle confie cette fois le rôle principal pour ce qui est, dans son cas à elle, son sixième film. Alors le souci majeur du film provient sans doute de ce choix, justement. Le personnage est assez désincarné, le jeu est faux, un peu absent. On comprend bien que le personnage intériorise, mais le jeu du comédien s'avère assez dérangeant, pas naturel. Et il maintient le spectateur à distance de sa psychologie, nous empêchant ainsi eh bien, toute empathie. J'avais personnellement beaucoup aimé Eden, l'un des précédents films de Mia Hansen-Love, qui racontait l'émergence de la French Touch, qui a ressuscité les soirées garage des années 90 à Paris et qui parlait de façon très émouvante de la résignation de l'âge adulte. La subtilité, la douceur, le sous-entendu ont toujours été les marques de son cinéma, mais son nouveau film, Maya, s'avère eh bien, tellement délicat finalement qu'il en est confus et que l'on se demande longtemps après le film ce qu'il a voulu raconter. Et puis il y a toujours quelque chose de dangereux à filmer un autre pays que le sien, le danger que la fascination dépasse l'histoire. Et c'est un petit peu ce qui se passe eh bien, dans ce film. Mia Hansen-Love a toujours aimé faire dans ses films des incursions à l'étranger, mais l'Inde semble être ici un prétexte pour combler une intrigue bien vide. Au final, la réalisatrice ne parle ni vraiment du traumatisme du personnage, ni vraiment de la jeune fille qu'il rencontre, ni même du pays dans lequel il se trouve. À force de pudeur, le film ne sait plus sur quel pied danser. Il refuse d'aborder les problèmes sociaux, restant dans un entre-deux qui, du coup, ne dit rien de la société qu'il montre. Quant au personnage de Maya, qui incarne un exotisme assez plat, puisque la relation des deux protagonistes est quasi mutique et dépourvue de sensualité, il est instrumentalisé, n'a pas la place centrale que le titre du film laisse imaginer. On ne sait pas trop, finalement, si la rencontre va être le mot auteur de la guérison de Gabriel, ou si cette rencontre est le symptôme, la preuve de son mieux-être. Au final, eh bien, on sort du film sans avoir été ému, charmé ou interloqué, et en espérant que Mia Hansen-Love retrouve un sujet un peu plus inspirant pour son prochain film.
Bon, on n'a pas eu la réalisatrice, hein, mais on a eu l'acteur.
En revanche, pour ce qui est d'être charmé, l'acteur est là, Roman Kolinka, donc l'on va tout de suite écouter au micro de Cinérama.
Il va nous parler notamment des conditions de production là-bas en Inde.
La particularité du rôle que vous jouez, c'est que c'est un reporter de guerre, mais qu'on ne voit jamais dans l'exercice de ses fonctions, finalement.
Ouais.
Donc comment est-ce que vous avez construit ce personnage ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire vraiment sortir de lui ?
Le scénario, au tout départ, on voyait un peu plus en situation, sauf que pour des problèmes de coût, cette partie a été coupée. Donc on attaque le film, c'est vrai, directement à la sortie de l'avion, donc au retour. J'ai préparé le film, j'ai lu quelques livres. Mia m'a pas mal parlé des rencontres qu'elle avait faites avec les journalistes qui l'ont plus ou moins inspiré pour le rôle. Et puis voilà, après on a parlé du rôle ensemble et ça s'est fait naturellement. Elle voulait un truc assez intérieur et pas forcément extériorisé beaucoup le côté dramatique de l'histoire, quoi.
Voilà. Vous avez du coup pu rencontrer des gens qui avaient été également otages ou...
Je les ai rencontrés par la suite. Je les ai pas rencontrés pour préparer le rôle parce que elle avait pas forcément envie que je les rencontre pour pas qu'il y ait une forme de copier-coller. Alors j'ai pour des trucs assez spéciaux, genre l'arrivée en avion et tout ça, j'ai regardé des images d'arrivées d'otages déjà existantes, mais voilà, c'est à peu près tout. De ce que Mia dit, c'est qu'elle voulait pas forcément montrer ce qui peut être une caricature de l'Inde aussi, qui est de montrer la pauvreté, voilà, c'était pas ça du tout l'image de l'Inde qu'elle voulait montrer elle. Elle a voulu montrer l'Inde qu'elle connaissait parce que Goa elle connaît assez bien.
Nothing. I thought I should tell you that I know.
Pour revenir sur l'Inde, c'est vraiment un personnage à part entière. C'est un des personnages principaux. Donc, comment s'est passé le tournage finalement avec l'Inde, qui était un peu comme une partenaire de jeu pour vous ?
Bah, ça s'est très bien passé. Alors, c'est évidemment quand on voit le film, on se dit que ça a dû être un tournage simple et sympathique. C'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Pour nous, quand on arrive là-bas, c'est des températures, une humidité auxquelles on n'est pas habitué. Donc, c'était en même temps assez marrant, mais c'est vrai que ça nous a tous un peu fatigués. Les premiers jours, et comme on tournait malgré tout, on faisait des très longues journées, c'était un film assez fatigant pour moi et surtout pour l'équipe. Il faut demander énormément d'autorisations pour tourner, qui sont très compliquées à avoir et qui peuvent coûter assez cher. À chaque étape, les gens demandent de l'argent. Donc on s'est trouvé à un moment donné où on était un peu obligé de tourner sans demander trop d'autorisation, donc assez rapidement. Ce qui peut en France à la limite passer en ayant plus de temps. Là-bas, il y a un espèce de truc où tout de suite il y a quelqu'un qui vient en disant j'appelle la police. Il y a un espèce de truc de délation assez dingue et c'est vraiment... Si on pose la caméra 5 minutes après, il y avait quelqu'un qui venait en disant vous avez les autorisations, montrez-nous et tout ça. Enfin, c'était assez étonnant. Tous les techniciens qu'on avait sont des techniciens en gros de Bollywood, puisque c'est une énorme industrie, c'est l'équivalent d'Hollywood, voire je crois plus. Donc c'est évidemment, on était obligé de prendre toute l'équipe indienne. Les chefs de poste étaient français, mais le reste de l'équipe était indienne, et c'est pas forcément pour les producteurs un tournage pas cher, comme on peut penser en tournant en Inde, ça coûte pas cher. Non, ça coûte le même prix, voire peut-être plus cher qu'en Inde, parce que il y a beaucoup beaucoup de monde. Les films que j'ai fait avec Mia, on était, je pense, en équipe technique 30 ou 40, là on était 120. Donc il y a à chaque bout de câble électrique, il y a un mec qui est là pour brancher, il fait que ça de la journée, il branche et il débranche, mais voilà, c'est à chaque fois c'est une personne.
C'était Roman Kolinka que nous entendions. C'est l'acteur du film Maya sur les écrans depuis le 19 décembre, tout comme Aquaman. On va faire une petite plongée à l'intérieur des océans.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Dans l'univers du comics, il y a des super-héros, des bons, des méchants, mais l'éventail se rétrécit quand on regarde les studios qui produisent ces films depuis des décennies. Deux se concurrencent, Marvel racheté par Disney, qui charrie Iron Man, Spider-Man, Hulk ou les Avengers. Et puis DC Comics, un brin plus sérieux, avec beaucoup de super-héros en Man, Superman, Batman, Catwoman ou Wonder Woman. Et là, dernièrement, Aquaman, l'arrivée du super-héros qui va unir le monde de l'Atlantide avec celui des humains, est attendue par DC Comics, hein, devenu depuis peut-être 2-3 ans DCEU pour DC Extended Universe. Car avec ses adaptations de comics, le studio américain fait bien moins que son concurrent. C'est bien simple, dans les plus gros cartons de films de super-héros, dans les 10 premiers, on compte 7 films Marvel pour 3 DC Comics. Et encore, Warner, qui coproduit les films, hein, s'étrangle en prenant sa calculette, car les coûts de production sont plus élevés élevé que le concurrent.
La légende dit qu'un beau jour, un nouveau roi viendra et qu'il se servira du pouvoir du Trident pour reconstruire l'Atlantide.
Et oui, un short, un trident, ça peut suffire. Aquaman est pour ainsi dire vierge hein, des écrans cinématographiques. À peine l'a-t-on vu avec ses gros muscles, sa combinaison dorée et sa grande tignasse apparaître dans quelques films comme pour annoncer son arrivée prochaine en tant qu'héros d'un film à lui tout seul. Alors, qui est Aquaman ? Eh bien, dans le film, il est présenté comme un sang-mêlé. Son père est un gardien de phare et sa mère est Atlana, reine d'Atlantis, le monde sous-marin. Alors, à la clé des pouvoirs, hein, une certaine force, une résistance aux nions et une belle vitesse de pointe en mode torpille, la faculté de parler aux poissons, du mérou au requin, mais surtout la capacité de respirer sous l'eau comme sur Terre. Ce qui n'est pas le cas de tous les habitants d'Atlantis qui, alors c'est assez amusant, hein, quand ils interviennent à la surface de la Terre, doivent porter un casque avec de l'eau dedans, donc c'est l'inverse d'un scaphandre. Pour ce premier volet, DC Comics a vu grand, il faut plus de 2h20 hein, pour raconter une histoire invraisemblable, car on est bien d'accord, un monde sous-marin, c'est pas commun, et qui va faire grandir notre super-héros de semi-demeuré à roi d'Atlantis, ce qui n'est pas rien. Et pourtant, ce temps est nécessaire car nous allons apprendre comment Arthur Curry est devenu Aquaman, comment il va devoir affronter son demi-frère qui veut lui devenir le maître des océans pour partir en guerre contre la surface. C'est ainsi que sont appelés les habitants de la Terre. Avec ça, il est aidé par un vizir, interprété par Willem Dafoe, dragué par une princesse, poursuivi par un méchant animé de la seule haine, qui se fait appeler Black Manta, et un peu terrorisé par ce qu'il attend, parce que si Arthur Curry est bien conscient de ses pouvoirs, il hésite entre foutaise et grand destin quand on lui dit que c'est à lui d'unir la planète Terre.
Il te faut oublier tout l'enseignement du monde de la surface. Va au tréfonds de toi-même, à la découverte de tes instincts d'Atlant.
Je suis le protecteur des profondeurs.
En ce trident repose la force de l'Atlantide. En mauvaise main, il ne causerait que destruction. Mais aux mains du vrai héritier, il unirait terre et mer.
L'heure est venue pour l'Atlantide de renaître à la gloire.
Il faut l'arrêter à tout prix.
La guerre va ravager la surface, que cela t'agrée ou non.
DC Comics prend quelques traits aux productions Marvel en insufflant ce qu'il faut de légèreté. On a là un personnage attachant car volontiers modeste, admettant ses erreurs, tiraillé par des sentiments de culpabilité, et puis pas le dernier à blaguer.
Va au-delà des confins du monde, en mer cachée. En mauvaise main, le trident ne causerait que destruction. Mais aux mains du vrai héritier, il unirait tous nos royaumes, terrestres et marins.
Hé, hey, minute !
Quoi ?
On n'aurait pas dû noter d'abord ?
J'ai tout mémorisé. Toi non ?
Ah, si, carrément.
Il a dit quoi ?
Truc, machin, bidule, trident.
James Wan, qui est à la réalisation, fait un compromis entre un film d'action, heroic fantasy et science-fiction. Si quelques séquences d'action sont sans saveur, d'autres parviennent à être claires, limpides et plutôt dénuées de sadisme. L'action prime sur le sang. On a peu l'occasion de voir une séquence sans effets spéciaux. La représentation du monde de l'Atlante ou d'Atlantis aurait mérité peut-être eh bien, d'autres teintes que des néons et des LED multicolores. Mais le monde des abysses fournit son lot de créatures étranges et voraces. Et globalement, hein, tout ce qui est sombre promet son lot de méchanceté. Cependant, le plus gros raté du film réside dans tout ce qu'il survole. La distinction entre la surface et le peuple des mers est esquissée. Quand le super-héros arrive dans la cité de sa propre mère, hein, interprétée par Nicole Kidman, c'est comme s'il prenait ces bus qui font le tour de la ville avec les touristes. C'est exactement la même chose. Et quand la princesse Mira, qui en pince pour notre sang-mêlé, visite un village sicilien, bien, le réalisateur se limite à nous grimer le choc culturel. Bref, quand on sort d'Aquaman, on ne sait pas de quoi vit le peuple des mers, si les 35 heures sont appliquées, même ce qu'ils mangent, on ne sait rien. Une grosse lacune qui laisse cette production de super-héros dans son confort finalement, soit l'action, la baston et l'aventure, et évidemment beaucoup d'effets spéciaux. Nicole Kidman n'apporte pas grand-chose. J'ai l'impression qu'elle rajeunit. Willem Dafoe non plus, et lui aussi il rajeunit parce qu'on le voit jeune et puis vieux. Enfin voilà, ça se passe à quelques écarts, alors je sais pas, une vingtaine d'années peut-être un peu plus. Et puis Amber Heard, qui joue la princesse, ressemble à Scarlett Johansson. Voilà, encore quelque chose qui pique au Marvel. Et puis Jason Momoa, choisi pour Aquaman, eh bien lui fait plutôt bien le boulot. Voilà. Donc, on en a fini avec ce super-héros, et on va parler bien de tous les autres super-héros.
On aurait pu parler de l'homme de l'Atlantide avec Patrick Duffy,
oui,
en fait.
C'est vrai, mais j'ai presque hésité à faire un blind test spécial, une série, créature sous-marine, mais ça peut se faire, mais voilà. Bon, en tout cas, là, c'est les super-héros dans leur globalité. 5 extraits, on devine le titre. Premier extrait.
Vers la fin des années 30, la crise économique qui sévissait à l'échelle mondiale n'avait même pas épargné une grande cité comme Metropolis. En ces temps de peur et de désarroi, la mission d'informer le public était largement assumée par le Daily Planet, le grand quotidien national, qui, par sa clarté et son honnêteté, était devenu le symbole de l'espoir pour les habitants de Metropolis.
Oh, l'indice fatal, bon déjà il y avait la musique, c'est trouvé Marine.
Oui, enfin oui, je précise quand même que moi il m'a suivi de deux notes de musique pour dire Superman. Ouais. Quand même.
Superman, film de Richard Donner avec Christopher Reeve, évidemment. Film donc de 78 qui a rassemblé 2 600 000 spectateurs en France. C'est presque la moitié de ce film-là.
Ce soir, vous allez tous participer à une expérience sociologique.
À minuit, j'explose tout le monde.
Cependant, si l'un des passagers d'un des ferries appuie sur le bouton, j'épargnerai ses occupants. Alors qui va gagner ? La vermine ardemment poursuivie par Harvey Dent ? Ou les civils tout beaux, tout innocents ? À vous de choisir. Oh, et je vous conseille de vite vous décider car les passagers de l'autre ferry pourraient être moins charitables que vous.
C'est trouvé, évidemment, c'était facile.
Oui, c'était Batman.
Le Chevalier Noir, hein, parmi la trilogie des Christopher Nolan, avec le regretté Heath Ledger, et donc qui a rassemblé 4 400 000 spectateurs en France. Et c'est beaucoup plus, deux fois plus que ce film-là.
Légalement, on est tenu de la relâcher.
Ce qui est légal s'applique aux êtres humains. Les lois ne s'appliquent pas aux mutants. Le risque est trop grand. John, la guerre est imminente.
Oui, en effet. Mais contre qui nous battons-nous ?
La question est excellente, mais le terme de guerre n'est pas très indiqué, car il sous-entend que les deux parties auraient leur chance de l'emporter.
Alors, c'est trouvé.
X-Men, le commencement de Matthew Vaughn, du coup.
Oui. C'est tout ça. À fait, film de 2011, voilà, bon, une longue série, un peu plus de 2 millions de spectateurs en France, c'est beaucoup, mais vraiment beaucoup plus que celui-ci.
Mais un groupe de cette taille a des allures d'opération publicitaire, pas là pour me faire mousser.
On peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde. Avec le leader adapté.
Ouais. Toi, par exemple, hein, Ozzy ? Bah ouais, t'es bien le mec, là. Le plus malin de la planète.
Faut-il être un génie pour voir que le monde a des problèmes ?
Non, mais sacrément con pour croire que des rigolos comme vous sont de taille à les résoudre. Les hommes ne font que s'entretuer depuis le commencement des temps. Aujourd'hui, on a enfin l'opportunité de finir le boulot. Attendez que les missiles dégringolent, on va tous redevenir poussière. Et alors là, notre Ozymandias sera le mec le plus malin du tas de cendres.
Alors, ça a été trouvé...
Les Watchmen de oui. Zack Snyder, hein, d'après la BD d'Alan Moore.
Film que j'avais plutôt apprécié en 2009, mais qui n'a pas rassemblé beaucoup de monde. Et bon, Zack Snyder n'a pas rapporté beaucoup d'argent à DC Comics.
C'est très noir comme film.
En tout cas, c'est une uchronie hein, où le Vietnam a été gagné par les Américains. Eh bien, ça a rassemblé 750 000 spectateurs en France, à peu près. Et ce film-là a fait 40 000 de plus.
Papa, j'ai peur.
Allez, Mandy, ma puce. T'es une grande fille maintenant, y a plus rien qui doit te faire peur.
Est-ce que ça va faire mal ?
Ah, la pupuce. Juste une petite seconde, trésor. Alors, la balle d'un revolver va à plus de...
1100 km/h.
1100 km/h. Alors, à une distance aussi proche, le choc va te faire tomber, ça c'est sûr. Mais ça ne fera pas plus mal qu'un coup de poing dans la poitrine.
Mais j'aime pas les coups de poing.
Tout va bien se passer, ma poupée.
Oh !
Alors, ça fait quoi ? Ça fait pas mal, hein ?
Bah oui, ça fait pas mal de se prendre un pruneau.
Kick-Ass.
Kick-Ass avec la voix française de Nicolas Cage. Voilà, bah, Kick-Ass, c'est un peu l'anti-super-héros, ouais. Hein, parce qu'il se prend plein de nions, voilà. Et ça a rassemblé bien quasiment autant de spectateurs que Watchmen. Oui, un peu plus,
Et puis c'est quand même des petits-enfants qui tuent des gens quand même, hein. Faut quand même le dire, c'est aussi pour ça, c'est pas très correct.
Oui, mais c'est pour la justice.
Pour le bien de l'humanité, quand même.
C'est quand même ça, à la base. Ainsi se referme ce blind test spécial super-héros. Et maintenant, eh bien, on va redescendre un peu. On va parler de Rittipan pour eh bien, le DVD qui ressort à l'occasion de ces fêtes.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, deuxième film de Rittipan à sortir en DVD chez un petit éditeur et distributeur, Épicentre. Après La France est notre patrie, Exil hein, sort du cadre, on va dire, étriqué du documentaire classique afin de proposer, on va dire, une réflexion passionnante sur la mémoire à travers vraiment une forme limite expérimentale. Alors, rappelons juste les faits comme ça. Hein, rescapé des camps de travail des Khmers rouges dans lesquels a péri toute sa famille, Pan a connu la torture d'un régime communiste transformé en dictature sous le commandant Pol Pot. Il quitte donc le Cambodge en 79 et arrive en France. Et ensuite, tout le cinéma de Rittipan sera articulé autour un peu de son histoire. Alors, plus complexe que La France est notre patrie, hein, Exil ose s'aventurer vers des formes artistiques disparates. L'accès n'est pas simple, hein, mais pour peu que l'on accepte les partis pris radicaux, la beauté poétique de l'œuvre prend le dessus sur la réflexion intellectuelle pourtant pertinente. Le générique hein, semble poursuivre la ligne directive du précédent. Hein. L'international est chanté en laotien. Un homme de dos se tient devant des images d'archives où l'on observe des paysans en masse portant des sacs. L'homme dans sa fonction la plus rudimentaire, l'esclave au travail. Mais une voix off, douce et envoûtante, hein, qui ne nous quittera plus, commence par cette phrase terriblement juste, qui résonnera encore longtemps après la projection. Les hommes rêvent de révolution, la révolution rêve d'elle-même, il n'y a pas de spectateur innocent. Alors tout le film hein, tend à analyser le sens même d'une révolution, sa dimension romantique et utopique qui n'est qu'un leurre. Comme il le soulignera à plusieurs reprises, hein, la révolution est avant tout une soumission, la terreur et la vérité du projet révolutionnaire. Alors le pessimisme salutaire de cette œuvre indispensable passe par une mise en scène d'une grâce peu commune, hein, plus proche de l'installation vidéo que du documentaire, hein, dans une approche, je dirais, vraiment totalement expérimentale. Alors Exil prolonge en réalité un des précédents projets de Rittipan qui s'appelait L'image manquante. Il invite à nouveau Christophe Bataille à écrire un texte magnifique qui alterne de logorée des dirigeants communistes et aphorismes et réflexions critiques autour de ces élans verbaux censés justifier le pire. La parole est au cœur d'Exil hein, et pourtant il faut se méfier des mots, de leur sens, de leur pouvoir d'attraction. Le séduisant discours patriotique ou révolutionnaire, il a tendance un peu à assimiler les deux, détourne les mots de leur sens, ravive des émotions fortes et séduit les masses, pris un peu dans la tourmente d'un changement qui finira en génocide. Alors Pan ne change pas, hein, il fuit le didactisme oral ou visuel et préfère détourner, alors non pas son message, mais sa vision du monde à travers un dispositif esthétique mystérieux proche de la méditation. Alors un homme dort dans une cabane, des objets apparaissent et disparaissent, une main d'un fantôme, hein, on demande si c'est pas la mère du cinéaste, caresse la peau de cet homme, des planètes en surimpression envahissant l'espace confiné dans la cabane, tandis que de la fumée rouge envahit le cadre. Alors on voit que on n'est pas du tout dans une forme documentaire, hein. Autant de signes, de symboles que le réalisateur nous donne à voir, à ressentir sans avoir besoin d'expliquer. Alors à chacun d'interpréter ce qu'il voit, cet homme rêve de ce passé horrible et tente en même temps de chasser ces images traumatisantes, de les effacer, oublier le drame par l'art, hein, pourtant sans jamais oublier. Alors Exil est littéralement traversé par cette dialectique intérieure, ce paradoxe humain entre le devoir de mémoire et puis le besoin d'effacer en fait cette mémoire, enfin ce passé. Alors Pan, hein, toujours en quête de renouvellement, il repense et retranscrit l'histoire différemment, invente une autre façon de nous alerter. Mais comment, on va dire, enfin c'est un peu la problématique du cinéaste, c'est comment dénoncer sans dénoncer ou sans montrer. Alors comment nous mettre en garde contre les belles idées révolutionnaires sans sombrer dans une approche, on va dire, un peu déterministe. Il ne cherche pas à convaincre, mais invite à penser, en fait à méditer sur le sens de l'existence, sur notre rapport au monde, hein, sur la possible réconciliation entre les peuples. Alors l'avant-gardisme poétique est sans doute le geste le plus politique du film. Encore une fois, Pan se méfie des belles idées brandies comme autant de slogans. Toujours cette pudeur, cette distanciation du regard comme lutte contre la dictature. Alors ce désir de renouvellement permanent, de ne jamais épouser un système de pensée, d'être toujours à la bonne distance, impose Rittipan comme un, je dirais pas comme un grand cinéaste de documentaire, mais comme un grand cinéaste tout court, assez obsessionnel, hein, puisque je crois que, hormis son adaptation de Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, il a traité quasiment de toujours le même sujet.
À noter que tu traites de ces deux films sur le site Culture au Point.
Culture au Point, voilà.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
La semaine prochaine, on se retrouve avec une interview de Rowena Gera, réalisatrice indienne. Et puis, on vous parlera des trois films qu'on a préférés en 2018.